Nous sommes avec Morgane Fourré, dans son atelier à Sotteville-lès-Rouen. Nous nous dirigeons ensuite à la Maison des Arts de Grand-Quevilly, où son exposition personnelle « Fragments du commun » va avoir lieu. Il y a du bruit qui nous entoure, et par-dessus, nous allons parler. Commencer par faire une visite.
Oui, du coup on peut commencer par l'entrée si tu veux, parce qu'en fait là on est chez moi. Du coup c'est une maison qui se trouve à Sotteville-lès-Rouen et donc l'atelier est une véranda qui est située dans cette maison. Donc on peut aller dans l'entrée. Donc l'entrée, où il y a une table, un buffet, etc. Et donc il y a un petit salon avec ce qu'il y a dans un salon, un canapé, des fauteuils, une petite table. Il y a quelques petites œuvres d'art qu'on m'a offertes, donc que j'ai accrochées, dont une de Gilles Furtwängler qui attend d'être encadrée. Et voilà. Donc là, on repasse.
Des petits trucs pour les chats.
Voilà, il y a un petit chat ici. Donc là, on repasse dans la cuisine qui est juste. Enfin, qui jouxte la véranda, donc, qui est mon atelier, qui est complètement vitrée. Donc en fait, j'ai vu sur toute la maison et aussi sur le jardin, parce qu'il y a un petit jardin. Donc, qui donne sur la véranda qui est complètement vitrée. Donc, j'ai pas mal de lumière, ce qui est pas mal pour mon boulot. Je fais de la peinture. Voilà, je sais pas si tu veux visiter le jardin d'abord.
Ouais, on peut y aller.
Donc voilà, nous entrons, nous sortons dans le jardin. Où en fait il y a un petit lieu de stockage, enfin un petit bâtiment qui me sert à stocker mes outils, mes bouts de bois, etc. Donc j'ai plusieurs lieux de stockage et ici je stocke plutôt tout ce dont j'ai besoin, donc des outils, des plaques de bois, des chutes de bois, des pots de peinture. Il y a des vélos, voilà, il y a des tréteaux, des caisses à outils, des escabeaux.
Des morceaux de pièces.
Des morceaux de pièces. Du coup, il y a quelques pièces, mais là, qui sont parties du coup à l'expo, mais il reste un morceau de pièce que j'ai pas encore utilisé, qui fait partie d'un carton, en fait, d'un faux carton. Donc, et à l'intérieur, il y a des particules de calage en plâtre. Donc, c'est cette partie qui est entreposée pour l'instant sur une chaise. Voilà. Et...
Tu la trouves bien sur cette chaise, cette pièce ?
C'est pas vraiment son socle d'origine. Mais puis en plus, c'est pas vraiment. Enfin, c'est une partie d'une pièce. Donc. Mais ça donne une autre vie à la pièce, du coup.
Est-ce qu'il y a des fois des formes de collage comme ça que, sur lesquelles tu tombes et qu'après tu réutilises dans une exposition, dans ton atelier, des choses
Y a des éléments en fait avec lesquels je vis dans l'atelier. Mais c'est plutôt récent, en fait, que je les utilise. Bah, là, c'est le cas dans cette expo, parce qu'en fait, j'avais envie, du coup, de montrer un peu les choses qui m'entourent aussi. Parce que je montre aussi ce qui entoure les artistes quand je fais des portraits d'eux, parce que tout ce qui est sur leur table n'est pas forcément en rapport avec... ou ne sont pas forcément des pièces en devenir. Donc du coup, là, j'ai eu envie de mettre des éléments qui me sont propres et qui me sont chères aussi. Du coup, bah là, on a planté pas mal de plantes aussi dans le jardin depuis qu'on est arrivé, parce qu'il n'y avait rien du tout, pratiquement. Et du coup, vu que ma sœur fait des études en horticulture, elle est plutôt expérimentée et elle ramène des plantes. Et moi, je m'occupe de les planter. J'aime bien le jardinage. Ça m'a pas mal occupée au mois de juillet. Donc voilà, on a même semé le gazon. Voilà. Et là, ça pousse.
Il y a des artistes qui comparent des fois leur pratique à celui du jardinage, à avoir un jardin, de celui de le faire grandir. Il y a un truc d'attente. Est-ce que toi, tu... D'attente, de cycle. Est-ce que toi, tu te verrais un peu comme ça?
Je sais pas trop, parce que en fait, les plantes, elles ont... pas forcément toujours besoin de nous pour grandir. Enfin, elles ont besoin de nous pour les arroser de temps en temps, quoi. Mais là, par exemple, en ce moment, il y a pas mal de pluie vu qu'on est en Normandie, et du coup, je m'en occupe pas trop. Ça pousse comme ça. Bon, à part, j'ai des plantes d'intérieur aussi, donc là, elles ont besoin de moi pour pousser, mais. Donc on peut retourner...
Il y a une colonie de chats aussi, hein.
Ouais, en fait, ce sont des espions, je crois. C'est les chats du quartier qui squattent un peu par ici. Donc voilà, on est revenu dans l'atelier, où il y a aussi des plantes, qui étaient avant dans mon ancien appartement... qui se sentent plutôt bien ici, parce que, comme je le disais, il y a beaucoup de lumière. Et donc voilà, je fais mes petites expériences. Je plante des choses bizarres. J'ai planté un gingembre. Là, et ça pousse. Je plante des avocats. Voilà. Tout ce monde-là est très bien ici. Je fais des boutures, je fais sécher des graines pour ensuite les planter dans le jardin. Voilà, puis on m'a donné aussi des plantes, donc j'essaie d'en prendre soin pour qu'elles soient bien. Et puis il y a ma petite plante préférée que je m'acharne à faire pousser depuis des années, parce que en fait c'est une plante exotique, mais bon, comme la plupart des plantes d'intérieur, mais c'est un mimosa pudique. Et du coup, quand tu les achètes dans les jardineries, elles sont boostées à fond dans un environnement parfait pour elles. Sauf que bon, en fin de compte, quand tu les mets chez toi, il fait pas assez chaud, il y a pas assez de lumière, digne d'humidité. Et donc voilà, je la maintiens en vie depuis déjà quelques années. Et tous les ans, j'ai l'impression qu'elle va me lâcher, mais en fait, non. Donc elle est sur mon bureau, enfin sur un de mes bureaux, parce qu'il y en a plusieurs. Et du coup, bon, c'est plutôt le bureau où je suis avec mon ordinateur, en fait.
Ça me fait un petit peu penser à Joe, un ami thaïlandais que j'avais rencontré en résidence, qui entretenait un rapport particulier avec ses plantes. Bon, en fait, dans son travail, lui, quotidiennement, en fait, il récupérait des animaux morts pour les incinérer ensuite et récupérer leurs cendres pour après former la structure, l'ossature d'un golem qu'il était en train de faire. Et là, c'était quelqu'un d'extrêmement calme. Et la seule fois où je l'ai vu s'énerver, c'est quand... Il a été dans l'impossibilité de s'occuper et d'arroser ses plantes. Et après, là, dernièrement, j'ai re-regardé Léon, le film, où il y a Léon, ce nettoyeur, qui balade une plante comme ça, comme presque dans une relation amicale ou une relation humaine. Et je me demandais si tu avais un rapport comme ça, proche ou... sentimental avec tes plantes.
Oui, je pense que c'est un peu sentimental, parce qu'en fait, Ben, on n'a pas envie, enfin, on en prend soin, donc on n'a pas envie qu'elle meure. Puis, enfin, c'est des êtres vivants, même si c'est pas comme un être humain. Bah, enfin, c'est toujours triste quand quelque chose de vivant meurt. Donc, je m'en occupe, j'essaie de m'en occuper au mieux et puis de ne pas. Voilà, qu'elle soit bien.
Il y a aussi ce rapport avec ton travail, dont on reparlera, qui fige les choses, qui les empêche presque de pousser. Et,
Oui, bah, qui a un rapport à la vanité, du coup, c'est vrai que je fige un instant et c'est bah, c'est rien. Enfin, c'est des vanités, des natures mortes, du coup, dans un moment précis, en fait. Donc, du coup, les plantes, ben, ça continue de vivre et de pousser. Mais d'ailleurs, du coup, je commence à les mettre aussi en scène dans mon travail, en fait, parce que sur plusieurs tables que j'ai pu faire de portraits d'artistes, en fait, j'ai mis des plantes. Enfin, c'est des plantes qui faisaient partie, en fin de compte, des bureaux des artistes. Donc ça m'a fait plaisir de pouvoir justement représenter des plantes. Et du coup, je les fige, elles aussi, dans un moment, bah, sur la table de Maxime Tiefin, par exemple. C'est une jacinthe, bah, les jacinthes qu'on achète à Noël, qui est toute fanée. Du coup, il y a vraiment le rapport à la vanité, un peu avancé du coup. Et puis, sur ma propre table, j'ai mis aussi, parce que j'ai fait un autoportrait, j'ai mis bah, des avocats qui sont en train de pousser, bah, parce que j'en ai planté du coup en rentrant cet été, voilà.
Est-ce que tu peux nous décrire un peu les éléments qui se trouvent dans ton atelier?
Ouais. Bah, il y a plein de petits objets. Il y a des cartes postales qu'on m'envoie. Il y a des petits Bernard l'ermite en verre que j'ai acheté au musée du coquillage au Sable d'Olonne cet été. Il y a des pommes, enfin il y a des bougies en forme de pommes assez trompe-l'œil pour le coup qu'on m'a offertes. Il y a des petits gâteaux, pareil, ce sont des bougies. Voilà, je pense que bon, c'est un petit clin d'œil, je pense à mon travail aussi et puis à mon amour pour la nature morte. Et il y a une petite sculpture aussi qu'on m'a offerte qui vient de chez un antiquaire de Rouen. S'appelle Guillaume Fouquet. Et donc, c'est ma cousine que j'ai récemment retrouvée qui m'a offert cette petite sculpture. Donc, voilà, j'en suis très heureuse. Et il y a un poste radio disque, enfin vinyle, qui, bah, qui est là aussi. Donc, j'écoute régulièrement des vinyles. Et j'en ai pas mal trouvé en foire à tout justement, et dont la chanson que t'as entendue au début quand t'es arrivé, qui est en fait un disque que j'ai trouvé sur une foire à tout, qui est un disque de lip-sync, et cette chanson c'est How Long. Et en fait, je sais pas, j'écoute souvent cette chanson-là en particulier dans l'atelier. Puis il y a des photos aussi.
Il y a plein plein de photos.
Ouais, bah, qui sont surtout des photos de mes proches en fait. Voilà, en fait j'ai toujours eu des photos de mes proches bah, à côté de mon bureau en fait. Voilà, c'est un peu mon leitmotiv peut-être. Donc voilà, il y a. Bah. C'est plus ma famille proche, en fait. Hein. Et puis, il y a une petite photo d'un bébé qui vient de naître, qui est la fille d'amis à moi, donc, qui viennent de m'envoyer. Il y a plein de post-it et de listes, parce que j'aime bien faire des listes et puis pouvoir les barrer aussi. Et voilà, bah il y a le carton, enfin il y a l'image que j'ai imprimée en fait du carton d'invitation de l'expo.
Dans toute ta famille, on voit pas mal ton papa, avec lequel tu as un rapport de filiation mais aussi de transmission, parce que je crois qu'il t'aide beaucoup dans ton travail.
Bah, il m'aide beaucoup et bah, notamment là sur il m'a beaucoup aidé pour cette expo mais bon c'est en général c'est assez régulier parce qu'il est ébéniste et menuisier donc bah, je pense que mon boulot est très lié au métier de mon père en fait enfin à l'artisanat et puis bah, au métier du bois aussi surtout Donc, voilà, enfin...
C'est de père en fille.
Ouais, bah même si on fait pas le même métier, puis en plus, au départ, si je suis rentrée aux Beaux-Arts, c'est aussi parce que mon père faisait de la peinture, en fait. Et donc, c'est plus par rapport à ça, au départ, que je me suis mise à faire de la peinture. Et puis, ma mère m'avait beaucoup poussée, aussi, à aller aux Beaux-Arts, à aller en art plastique au lycée. Et puis bah, finalement, une fois que j'ai été aux Beaux-Arts, j'ai commencé en fait. Enfin, c'est plutôt en sortant des Beaux-Arts que j'ai commencé ce projet, enfin, ce travail aussi en rapport avec l'artisanat, avec les métiers du bois. Enfin, il y a aussi tous les métiers qui tournent autour de l'art, enfin, les monteurs, les régisseurs. Voilà, mais. C'est vrai que moi, ce que j'utilise beaucoup, c'est le bois. Bon, il y a aussi le plâtre. Et puis récemment, bah, je me suis mis à la céramique, qui, du coup, là, commence à faire partie intégrante de mon travail.
Et tout ça, on retrouve du coup sur ta table de travail.
Alors là, c'est un autre moment, parce que du coup, la table de travail que je présente, donc comme autoportrait. Dans l'exposition, c'est un moment du travail donc où j'étais en train de réaliser plutôt des céramiques. Et là, bah, du coup, le vernissage c'est ce soir. Donc j'ai fait un peu de rangement dans mon atelier. Puis bon, bah il y a eu plein d'étapes en fait qui s'en sont suivies. Donc il y a eu un moment où il y avait plein de pots de peinture. Il y a eu un moment où il y avait plein de terre que j'étais en train de modeler. Et là, c'est le moment où il n'y a pas grand-chose. Il y a quelques pots de peinture, quelques outils, il y a des enceintes, parce que je suis en train de préparer une playlist. Et puis voilà, donc il y a une liste encore de choses à faire. Voilà, il y a des pinceaux, il y a pas mal de choses quand même finalement. Et il y a les traces aussi de ce que j'ai pu faire en fait récemment. Parce que je protège parfois ma table et des fois j'oublie un peu, mais.
Du coup, on pourrait se rendre à ton exposition qui s'appelle comment?
Fragments du commun.
Et le titre, il t'est venu d'où? Enfin, il signifie quoi?
Bah, le titre, je pense qu'il signifie que. Bah, je pense que c'est très en rapport avec la vanité, la nature morte, le fait du coup d'amener en fait des éléments. Bah, là, c'est un peu amener des éléments d'un atelier, même de plusieurs ateliers, dans le lieu d'exposition. Et du coup, c'est des fragments en fait de chaque atelier, parce que la table, le bureau d'un artiste, c'est qu'une petite partie en fait de l'atelier et du commun. Je sais pas en fait moi le commun, ça me fait un peu penser au commun des mortels et puis peut-être parce que finalement l'arrêt sur image d'une table d'artiste c'est un peu comme une vanité le fait de sacraliser quelque chose, mais là du coup voilà c'est peut-être aussi de le désacraliser d'en faire quelque chose de commun, finalement.
Très bien.
Voilà, puis c'est aussi un instant, un moment
Ok. Bon
du
bah, du
travail.
coup, on va y aller.
Ouais.
Seulement, qui est la directrice de la Maison des Arts de Cran Quevilly.
Salut.
Du coup, on arrive dans l'entrée, enfin dans la première salle en fait de la Maison des Arts, donc qui est plutôt comme une introduction en fait à ce qu'on va voir dans la suite de l'exposition. Donc du coup, dans cette salle-là, j'ai voulu du coup mettre, donc, parce qu'il va y avoir plusieurs portraits en fait d'artistes qui portent à chaque fois le nom et le prénom de chaque artiste. Et donc là, c'est mon autoportrait en fait, donc qui s'appelle Autoportrait pour le coup. Et il y a aussi des pièces qui sont d'une série plus ancienne, enfin qui datent là de 2012-2013, donc c'est pas très vieux, mais qui du coup ont plus un rapport avec le montage d'exposition, le démontage d'exposition, voilà, les monteurs, les régisseurs, etc. C'est plus ce corps de métier-là. Et qui du coup là sont réutilisés dans cette exposition comme étant des éléments qui pourraient se trouver dans l'atelier parce qu'il y a du coup un carton d'emballage en fait avec des profilés bleus et un carton qui sort de ce carton-là. Donc il y a vraiment dans cette pièce-là il y a une dimension assez enfin une dimension temporelle. Fait que c'est comme si on sortait en fait le carton d'un autre carton, comme s'il était resté figé de cette façon-là. On a aussi une caisse de transport avec une visseuse dessus, comme si on avait laissé, comme si on venait de visser en fait cette caisse.
Oui, je pense que ça peut être bien de préciser que tous ces éléments sont des trompe-l'œil.
Oui.
Donc peut-être que tu peux parler de la manière dont tu pratiques, envisages le trompe-l'œil, comment tu mets en perspective avec le trompe-l'œil traditionnel qu'on a l'habitude de voir plutôt dans des endroits, dans des châteaux, dans
Ouais.
des.
Bah à la base, le trompe-l'œil, il a jalonné plusieurs époques et il a eu des significations différentes à chaque fois. Donc, ouais, c'est vrai qu'on peut le retrouver plutôt dans des édifices religieux, après dans des châteaux aussi. Donc, il y a une dimension plutôt luxueuse, ou en tout cas de représenter des matériaux nobles. Mais aujourd'hui, on le retrouve aussi de manière plus populaire, en fait, des fausses fenêtres, des faux intérieurs bucoliques, etc. Et là, dans mes expositions, du coup, le trompe-l'œil représente plus des matériaux pauvres, des objets utilitaires, en fait. Et du coup, là, ce sont des objets qui servent à transporter et à protéger les œuvres d'art. Donc, a priori, pas d'œuvres d'art, ou en tout cas, elles sont emballées. Et donc, du coup, à chaque fois, c'est des choses qui sont faites en bois, mais il y a aussi du plâtre, des moulages en plâtre, et tout est repeint, donc de la couleur du matériau, avec du coup les.
Les motos.
Donc là, il y a un faux carton, donc je vais le repeindre de la même couleur qu'un carton, avec un grain particulier, avec ses ombres, etc. Et donc, dans cette salle-là, on retrouve aussi des éléments qui sont plutôt des matériaux qu'on peut trouver du coup dans un atelier, un endroit de l'atelier en fait, entreposé.
Ou aussi à un moment du montage, parce que là
Ou à un
c'est
moment du
quelque chose que
montage,
tu
ouais.
combines et de la construction.
Oui, parce que là, du coup, on a aussi une pièce qui est une pièce qui peut être à la fois dans un atelier et à la fois dans un lieu d'exposition, soit au moment du démontage, soit au moment du montage, puisque en fait là c'est deux pièces qui sont combinées. Il y a la pièce qui s'appelle OSB et qui est donc une marqueterie en fait qui représente une plaque d'OSB, mais réalisée avec du bois de plaquage, donc plutôt du bois noble, exotique. Donc en opposition aux déchets de bois qu'on utilise pour fabriquer les plaques d'OSB, qui sont des gros copeaux en fait. Et donc elle est combinée avec une autre pièce qui s'appelle résidus de cimèze, qui est c'est des chutes de plaques au plâtre, mais qui sont réalisées donc en bois et peintes en trompe-l'œil, donc imitant les défauts des plaques de plaques au plâtre, etc. Donc là, elles sont empilées les unes à côté des autres.
Voilà. Et la manière dont tu invites le spectateur à l'entrée, et même tout le monde de l'exposition, il y a quand même un fil conducteur qui, enfin, en tout cas à l'entrée, où on pourrait presque se dire qu'il n'y a rien, alors que justement, il faut porter une attention particulière au...
Ça arrive souvent qu'en fait les gens qui viennent voir mes expositions aient l'impression que l'exposition est soit terminée, soit en cours d'accrochage, ce qui est plutôt normal quand on voit de loin, parce que c'est comme un peu devant un tableau, en fait, on voit pas forcément les détails, on voit pas forcément que c'est de la peinture, parce que sur certaines pièces, du coup, je gomme vraiment la main, enfin l'action du peintre, du coup c'est beaucoup d'aplats, donc j'essaie de m'approcher au plus près de la réalité, et du coup ça fonctionne comme ça en fait. Et ce que j'aime bien me dire, du coup, c'est qu'on entre en fait dans un tableau, dans une scène, et que du coup on en fait partie une fois qu'on est à l'intérieur de l'exposition. Et qu'on découvre petit à petit chaque détail, on découvre aussi que c'est de la peinture au fur et à mesure. Et du coup, là, on a une autre pièce qui fait partie de cette première salle, qui est en fait, donc ce sont des cadres en papier bulle, mais qui sont des répliques du coup de cadres de papier bulle en moulé en plâtre, et donc pareil repeint en trompe-l'œil. Donc ils sont contre un mur, comme prêts à être enlevés de l'atelier pour aller dans une exposition. D'habitude, en fait, habituellement, les expos que je présente, en fait, ces objets sont plutôt comme des objets d'artistes qui seraient des artistes hypothétiques, en fait, qui seraient du coup en attente d'être accrochés, en fait, dans l'exposition qu'on vient voir. Mais là, du coup, ils pourraient être mes propres pièces qui attendent dans mon atelier, étant donné qu'en fait, la table que je présente dans cette première salle est mon autoportrait. Et donc, sur cette table...
Est-ce que peut-être avant, sur les autoportraits, tu pourrais décrire cette série que tu as commencé ?
La série de portraits ?
Oui.
Du coup, cette série... elle a commencé, donc j'ai fait une première exposition en fait de ces pièces-là à Bruxelles, donc dans un lieu associatif qui s'appelle Éclat, donc où j'ai présenté trois de ces portraits. Et du coup, ce sont des portraits, mais qui représentent des tables d'artistes, donc qui sont des artistes, comme je le disais tout à l'heure, qui sont des artistes que je connais. Que j'ai déjà invité. Voilà, donc c'est une manière en fait de déplacer le travail d'atelier dans le lieu d'exposition, et aussi de montrer en fait une pratique en fait, enfin le moment du coup du travail et de la construction d'une pratique ou même d'un moment, parce que y a pas forcément on voit pas forcément ce que font les artistes par rapport à leur table parfois, enfin des fois ça peut être un peu flou. Et du coup aussi de confronter en fait ces différentes pratiques dans un seul et même lieu, parce que du coup la deuxième salle qu'on va voir, il y a quatre portraits d'artistes, donc quatre tables, et donc c'est j'aime bien m'imaginer que ça puisse être un atelier que ces quatre artistes partagent ensemble.
Et donc pour ta table, ton autoportrait du coup.
Alors pour ma table, en fait, j'ai pris un moment, enfin le moment de la construction de cette exposition, en fait. Donc du coup, ma table, elle peut avoir différentes apparences, comme pour chaque artiste d'ailleurs, parce que de toute façon, c'est un moment que je vais prendre en photo. Et que je vais ensuite refaire, enfin, je redonne en fait la même ambiance, quoi, que sur la photo, le même instant figé. Et donc ma table, c'est la table à un moment de la construction de cette exposition, parce qu'il y a eu différents moments avec différents objets,
Et
etc.
comment, pourquoi tu as sélectionné celui-là?
Parce qu'en fait, je pense que c'est le début de la construction de l'exposition. La table à ce moment-là, c'est vraiment, en fait, s'y trouvent les objets que j'avais envie de représenter donc en céramique, parce que du coup là, il y a la pratique de la céramique qui s'est bien immiscée dans mon travail il y a quelque temps. Et du coup, bah, il y a des choses que j'ai ramassées cet été. Comme je le disais, dans mon atelier, il y a beaucoup d'objets avec lesquels je vis. Notamment pas mal de coquillages, de cailloux, de choses que je ramasse. Et donc là, au début de la construction de cette expo, j'avais envie de refaire justement deux huîtres qui sont accrochées à des rochers. Donc ce que j'ai fait en céramique, j'ai commencé en fait par ces objets-là. Et du coup, sur ma table, j'avais tous les outils qui servent à modeler. J'avais de la terre crue, j'avais d'autres objets aussi, hein, parce que comme je disais tout à l'heure, il y a aussi des plantes. Il y a un peu un panel des outils que je peux utiliser, donc des pinceaux, des ciseaux, des outils pour la terre. Il y a aussi des petites babioles qui servent à rien. Et donc voilà. Mais du coup, là, c'est vraiment on va dire les balbutiements du travail que j'ai fait sur cette exposition, parce qu'il y a aussi du coup les fleurs, enfin les iris en fait, qui font partie d'une autre pièce qui est dans l'exposition, donc qui sont là en terre crue, mais du coup qui, pareil, c'est aussi du trompe-l'œil, étant donné que je peins sur de la terre cuite, une fausse terre crue. Voilà, et puis. Il y a un cendrier, il y a ma tasse de café, la fameuse dont je parlais tout à l'heure, avec laquelle je me lève le matin. Voilà, il y a pas mal d'objets. Tout à l'heure, quand je parlais de ma table que j'avais rangée, enfin, quand tu me demandais d'écrire ma table au moment où tu es passé dans mon atelier, en fait, je me suis dit qu'il y avait un moment un peu difficile quand on finit de travailler sur une exposition, quand tout est prêt. Enfin, c'est comme si on avait sorti quelque chose de nous-mêmes. Enfin, donc c'est et que du coup, ça existe en dehors de nous-mêmes. Et ce que j'aime bien justement quand je finis quelque chose, mais d'ailleurs c'est valable aussi entre les étapes de chaque travail, c'est ranger complètement et faire table rase pour accueillir de nouveaux projets. Voilà, donc, mais même à chaque étape du travail, là quand je parle de la table qui est présente dans l'exposition, c'est à un moment du travail, un moment du modelage. Mais il y a d'autres moments, il y a le moment de la peinture. Donc j'aime bien faire table rase à chaque fois de chaque pratique et d'accueillir une nouvelle chose.
Et cet autoportrait-là qui est devant nous dans l'exposition, est-ce que ça pourrait être une série? Et si c'était une série, est-ce que tu pourrais, puisque là tu as pris le moment où tu commençais cette exposition, est-ce que tu pourrais faire le trompe-l'œil ou l'autoportrait de ta table là en ce moment qui est fini à l'atelier?
Oui, je pourrais. Enfin, j'aimerais bien faire une série d'autoportraits justement. Et ce qui est marrant, c'est que je me suis rendu compte que je pouvais multiplier en fait un portrait d'artiste en faisant ma propre table, parce que d'habitude, quand je vais chez un artiste, c'est un moment donné de son travail et je vais pas forcément voir tous les jours ce qui se passe sur sa table, mais pas, enfin, bah, du coup, moi-même, je me rends compte de ce qui se passe sur ma propre table. Du coup, oui, j'aimerais bien faire plusieurs autoportraits, et je pense que ce qui serait bien, c'est de faire justement les différentes étapes, parce qu'il y a plusieurs étapes, du coup, dans mon travail, entre le modelage ou la construction en bois. Le moment où je fais mes surfaces, enfin où je peins tout en blanc, enfin où tout de la même couleur, le moment où je fais mes détails, le moment où voilà, donc ouais, j'aimerais bien faire différents autoportraits. Et après, la table, dans ce moment, je la trouve pas vraiment très intéressante à voir, mais c'est vrai que par rapport à ce qu'on disait de bah, du moment où tout se termine, ça peut être intéressant.
Donc là, on rejoint la dernière salle où il y a les portraits des artistes.
Ouais. Bah, du coup, la première table qu'on voit, c'est la table de Mireille Blanc, qui est peintre. Et donc, c'est la table où elle tend ses toiles. Donc, elle va tendre ses toiles directement sur la table. Et ensuite, elle va les mettre sur les châssis. Donc, sur cette table, il y a. Enfin, en fait, cette table est constituée de deux tables. Donc, il y a une table carrée où elle va tendre sa toile, et une table qui est un petit bureau d'écolier où elle pose ses pinceaux, ses palettes bah, des pots dans lesquels elle va mettre son diluant. Et donc il y a aussi des chiffons. Donc là, sur cette table, tout est en céramique, tous les pots. Donc j'aimais bien l'idée de réaliser en fait des pots qui sont censés être en verre et des pots qui sont faits de manière industrielle en céramique, et de les faire avec les techniques de montage au colombin, parce que du coup ça crée des défauts en fait et une certaine enfin, c'est un peu biscornu. Et donc, j'aimais bien cette idée d'avoir quelque chose qui est censé être droit et industriel, et de se retrouver avec quelque chose de biscornu et qui, du coup, est assez étrange. Voilà, et donc les torchons, bah, pareil, sont en céramique.
Là, il y a aussi quelque chose d'assez particulier, parce que dans ta peinture, justement, tu expliquais que tu faisais beaucoup d'aplats, que c'était très lisse, donc presque il n'y avait pas de signature, en tout cas il n'y a pas de pâte. Et là, on est devant la peinture de Mireille Blanc, qui a vraiment une pâte, qui fait travail même avec de la croûte pratiquement. Et donc là, c'est aussi assez particulier de s'accaparer ce geste, ce gestuel.
Ouais, bah, du coup, là j'ai eu des gestes de peintre en réalisant cette table-là. Enfin, d'ailleurs, c'était assez jouissif, quoi, parce que j'ai vraiment pu avoir des gestes vraiment en essayant d'être peintre. Bon, alors qu'en fin de compte, les gestes qu'il y a sur cette table-là, la table blanche où elle tend ses toiles, c'est plutôt des accidents, des traces que là, il fallait que je reproduise. Et du coup, en essayant de créer des accidents de manière volontaire, en fait. Donc, c'est.
Il y a aussi la palette, les
Et la
palettes.
palette, ouais, où du coup, j'ai fait de fausses croûtes de peinture. Donc, pareil, là, c'est vraiment. Un matériau qui n'est pas de la peinture, en fait. En dessous, j'ai créé de la croûte avec autre chose, et ensuite j'ai repeint par-dessus. Alors, la deuxième table, c'est le portrait de Maxime Thiéfine, qui fait des installations, des compositions avec des objets. Donc en général, ça peut être très lié à la couleur. Enfin, et donc sa table est assez colorée. Et il y a pas mal d'objets, donc d'objets qui peuvent être des objets liés aux arts plastiques, parce qu'il y a des pots de peinture, enfin des tubes de peinture, des choses comme ça, des crayons, des pinceaux, etc. Mais il y a aussi beaucoup d'objets du quotidien où bah, il y a une craie avec un élastique entortillé autour, il y a une boucle d'oreille, il y a une boule qui est, il y a des pots de vernis, mais donc du coup qu'il utilise lui pour ses œuvres. Et aussi ce que, enfin, il y a des dossiers aussi, des livres. Et ce que j'ai bien aimé sur cette table-là, c'est que en fait il y a des choses. D'ailleurs, je lui ai pas posé la question sur le coup, mais il y a des choses qui sont posées sur cette table qui, à mon avis, sont des œuvres en devenir, en fait. Alors je sais pas si ces œuvres, il a décidé de les montrer ou pas. Donc c'est ça qui est intéressant. Du coup, pour moi, dans ce projet-là, c'est que je rentre vraiment dans l'intimité de quelqu'un et de sa pratique. Et d'ailleurs, je suis très touchée en fait que les artistes aient accepté que je vienne faire le portrait de leur table, parce que c'est quand même livrer un moment de leur travail qui peut, ou ben, quand on est en train de créer des choses, on n'est pas forcément sûr de ce que ça va devenir et de si on le présentera un jour. Donc du coup voilà, il y a des choses qui peuvent être des œuvres de Maxime Tiefin sur sa table.
Donc justement, quand tu vas chez ces artistes, est-ce que tu peux nous décrire le protocole, comment ça se passe, quelle est ta méthode de travail?
Bah, du coup, je prends rendez-vous avec la personne, je vais chez cette personne, enfin dans son atelier. Mais régulièrement, c'est un peu comme pour moi, c'est l'habitat en fait de la personne. Et donc, je prends des photos en fait de la table, de tous les objets qui s'y trouvent. Je mesure la table, je mesure les objets qui s'y trouvent. Et puis, bah, ensuite, je vais travailler dans mon atelier pour imiter ces objets. Mais souvent, c'est aussi de rendre une ambiance, parce que je ne peux pas rendre exactement les mêmes objets, étant donné que je ne vais pas emmener les objets chez moi pour les mouler. Donc j'essaie de retrouver quelque chose aussi par la photo. Et du coup, ce projet-là est très en lien déjà avec la peinture, enfin, avec les genres de la peinture, le portrait, la nature morte, les vanités. Mais aussi, je pense, avec quelque chose de photographique, parce que le fait de prendre une photo à un moment donné, de faire un arrêt sur image, c'est aussi. Et puis, c'est très lié au temps du travail, au temps qui s'arrête aussi. Et là, du coup, on se trouve devant la table de Estelle Deschamps, qui est une artiste qui vit à Bordeaux. Et donc, ce qui est chouette dans cette table, c'est qu'en fait, je suis allée la voir cet été pendant que je faisais un petit périple. Et du coup, c'est à ce moment-là que je suis passée dans son atelier pour prendre des photos de sa table. Et voilà, donc sur cette table qui est assez grande. Il y a, en fait, il y a un objet que, donc, au départ, que j'hésitais à intégrer à la table, qui est en fait une étagère avec du coup des chutes de bois. En fait, Estelle Deschamps travaille beaucoup avec des chutes de bois, avec des bois de différentes essences, avec la couleur, la composition, enfin, beaucoup de matériaux en fait de construction. Et donc je trouvais ça intéressant que de ne pas enlever cette étagère, parce que je trouve que le classement fait partie de son travail, en fait.
Oui, elle a fait vraiment partie intégrante de la table, en plus.
Oui,
il n'y a pas
bah,
tellement de raison de...
bah, elle est, dans la réalité, elle est sur la table, donc c'est pour ça aussi que je l'ai intégrée. Et je trouvais qu'il y avait des éléments intéressants aussi à réaliser. Et ce que j'aime bien aussi à faire dans ces projets de portraits en table, c'est que, bah, comme je le disais pour Mireille, je deviens un peu peintre quand je fais sa table, parce que justement, j'ai une gestuelle, j'essaie d'adopter peut-être sa gestuelle. Et bah, pour celle d'Estelle Deschamps, je fais aussi des objets qu'elle ferait peut-être sûrement de la même manière que moi, finalement. Parce que je pense qu'elle utilise aussi le rouleau, comme je le fais pour réaliser ces petites chutes de bois. Voilà, donc j'ai l'impression des fois d'avoir les techniques aussi de certains des artistes dont je fais les portraits. Et donc la dernière table, c'est la table de Simon Ripoll-Hurier, qui lui est vidéaste. Et il fait aussi du son, voilà, mais il peint aussi. Donc, du coup, sa table est assez sobre. C'est une table noire avec plutôt des objets informatiques, des outils pour utiliser le son. Donc, il y a une carte son, il y a des fils. Il y a un ordinateur portable, des enceintes, mais il y a aussi des piles de papier. Donc il y a une pile de papier qui pourrait très bien être des papiers peut-être administratifs ou des choses comme ça. On distingue peut-être moins son travail à travers... Enfin, on distingue que c'est quelqu'un qui utilise l'outil informatique, le son, mais on a plus de mal à voir apparaître un travail, en fait...
Donc là, on se trouve plutôt dans la salle du milieu, intermédiaire de la première et de la deuxième, où tu as commencé une nouvelle série.
Ouais. Donc là, j'ai eu envie de, bah, pour cette exposition, de présenter une pièce qui fait partie d'une série que je débute, du coup, à cette occasion, qui serait une série de portraits, mais plutôt de personnes proches. Donc là, il s'agit d'un portrait de François qui est du coup constitué d'objets qui lui appartenaient et des livres, des vinyles, un ordinateur portable, des magazines, des CD. Et voilà, donc c'est qu'une petite partie hein, de ces objets. Et donc, c'est une pile de, c'est un empilement en fait de tous ces objets qui forment en fait un socle pour un iris en fait, donc qui est réalisé en céramique et donc peint pareil en trompe-l'œil. Voilà, il y a juste cette fleur sur le dessus de la pièce. Donc voilà, cette série débute à peine. Donc en fait, ce que j'aimerais, c'est pouvoir faire des portraits comme ça de gens qui me sont proches, d'utiliser en fait des objets qui peuvent les représenter, en tout cas pour moi. Voilà. Cette œuvre, en fait, a une signification particulière parce que je dédie cette exposition à François. Et du coup, la pièce qui vient ensuite est aussi un hommage. C'est aussi un hommage à cette personne, puisqu'en fait, c'est une collection de cailloux, enfin de pierres et de coquillages que j'ai ramassé en fait cet été. En fait, j'ai fait un pèlerinage ou un périple. Et j'ai fait un peu toute la côte ouest française. Et donc à chaque endroit, j'ai ramassé en fait des coquillages et des cailloux que j'ai ensuite reproduit en céramique, peint pareil en trompe-l'œil. Et donc cette collection est posée sur une étagère. Voilà, on peut découvrir chaque petite pierre. Après, il n'y a pas de précision quant aux endroits où ils ont pu être ramassés. C'est une pièce qui est assez intime en fait. Voilà. Et du coup, le titre de cette pièce, c'est Je n'ai pas de mots assez durs, qui est en fait un morceau du refrain d'une chanson de Hubert Félix Thiéphaine qui s'appelle Sentiment numérique revisité. J'avais envie, ça fait longtemps que j'ai envie de donner comme titre à une pièce une parole d'Hubert Félix Thiéphaine. Voilà, si on peut peut-être écouter
Ouais.
un morceau de cette chanson.
Ouais, mais je te remercie pour cette visite.
Merci.
Du soir chevauchent sur la lande avec dans leur passeport Sherwood ou Brocéliande. Quand les elfes titubent sous l'alcool de Sorgho dans les cercles succubes de la lune en faisceau. Quand les vents de minuit décoiffent les serments des amants sous les aulnes d'un hôtel flamand. Quand tes visions nocturnes t'empêchent de rêver et couvrent ton sommeil d'un voile inachevé, je n'ai plus de mots assez durs pour te dire que je t'aime. Dans les chauves-souris fleurent avec les rossignols, dans les ruines d'un royaume où mon crâne est mongol. Quand les syndicats brûlent nos rushs et nos démons pour en finir avec le jugement des salauds. Quand un petit jongle avec nos mots sans nom, quand le bourdonnement des câbles à haute tension, quand tu mords épuisé sous l'œil d'une opaline les charmes vénéneux de tes bras grands scintillent. Je n'ai plus celle nos orgies, s'attale au Yucatan, marque au Capac City. Quand nos murs se recouvrent de hiéroglyphes indiens, avec nos voix blafardes en feedback au matin. Quand tes mangoustes viennent avaler mes couleuvres, dans ces nuits tropicales où rugit le grand œuvre. Quand l'ange anthropophage nous guide sur la colline. Un nouveau festin de nos chers androgynes. Je n'ai plus de mots assez durs pour te dire que je t'aime. Repose la classe et l'infini à la vulgarité glauque de la bourgeoisie. Quand les valets de cour plaideurs pusillanimes encombrent de leur voix nos silences et nos rimes. Quand au détour d'un bar tu flingues au lavabo quelques juges emportant ma tête sur un plateau. Quand tu branches les hélices de ma mémoire astrale sur les capteurs influx de ta flamme initiale, je n'ai plus de mots assez durs pour te dire que je t'aime. leur char sur la tôle ondulée. Cerveau maître à tester l'autochtone humilié. Quand sur la Moleskine des limousines en liesse, ils en rient en fumant la moucho coronesse. Quand les cris de l'amour croisent les crocs de la haine, dans l'encyclopédie des clameurs souterraines. Quand je rentre accroché, fatigué, désingué, en rêvant de mourir sur ton ventre mouillé. Je n'ai plus de mots assez durs pour te dire que je t'aime. Quand dans la lumière sale d'un miroir tamisé, tu croises l'œil éphémère d'une salamandre ailée. Quand dans les brumes métal de nos corps transparents, tu réveilles mes volcans lumineux du néant. Quand mes pensées confuses s'éclairent au magnésium, sur les écrans secrets de ton pandémonium. Quand mes bougainvilliers se mêlent aux herbes folles, dans ta chaleur divine au crépuscule créole. Je n'ai plus de mots assez durs pour te dire que je t'aime. Quand les ombres du soir poursuivent sur la lande le flash des feux arrière d'une soucoupe volante, quand le soleil se brûle au contour de tes reins parmi les masques obscurs d'un carnaval romain, quand l'ordre des humains nous sert dans son cocktail 5 milliards de versions différentes du réel, quand tu pleures essoufflé au creux de ma poitrine avec les doux murmures des fréquences féminines. Je n'ai plus